Sweet Home Chicago, numéro 1269, pour ce samedi 8 mars. J'espère que tout le monde va bien. Salut à tous. Tout le blues actuel avec un petit œil dans le rétro. Chaque samedi, c'est Sweet Home Chicago. Marc Loison avec vous pour 2 heures de blues sur Radio 666. Sweet Home Chicago. Dans ce 1269e numéro, en première heure, 2 nouveaux extraits de Prière païenne, le dernier album de Kali Joe. Quelques nouveautés made in France avec Joe Harpo pour le single Believe de son superbe album Les Tides of Magnolias. Et puis Mr. Matt avec un extrait de son très poignant Route Noire, quelque chose de Dylan. Et puis le numéro 57 de My Rocker s'est consacré à Laurent Picot, artiste normand basé dans l'Orne. On découvrira son parcours entre rock et chanson, entre influence anglo-saxonne de bon aloi et chanson française bien rédigée. Accompagné dans le studio par son bassiste de toujours, Michel Carreau, on découvrira son nouvel album intitulé Vagabond d'une vie qui sortira le 1er avril. Laurent Picot nous parle du monde ouvrier, de ses origines italiennes, de ses amours musicales d'ado entre Léo Ferré et Étienne Dao ou Alain Bachung, avec Bob Dylan et Bruce Springsteen en fer de lance. Boss d'ailleurs, dont on va écouter quelques mesures, et un titre entier car il est aujourd'hui le choix de Laurent Picot, tout comme l'avait été celui de l'ami Jean-Christophe Panicot dans le My Rockers numéro 15 en novembre 2022. Et puis dans la rubrique 50 Years After, nous revenons en 1975 avec Big Mama Thornton et son magnifique album Jail. Voici pour démarrer, vous l'avez compris, Prière païenne, nouvel extrait, c'est le titre album et c'est toujours Kali Joe.
Oh mon ami la lune, aide-moi s'il te plaît. Ils ont brisé ma joie, détruit mon espérance, volé mon avenir, torturé ma confiance. J'ai tant besoin de toi pour soigner cette plaie. Dis-moi que ce n'est rien, qu'il existe bien pire que d'autres à tes pieds ont gémi et pleuré depuis la nuit des temps. Sont venus t'implorer, chercher le réconfort sous ton paisible empire. Une fraîcheur nocturne, une brise légère, et soudain je frissonne aux abords du néant. Mes rêves engloutis dans l'abîme béant m'entraînent aux confins d'une infinie misère. Au milieu des ténèbres, La souffrance est terrible et les mots sont sincères. Ne m'abandonne pas, campagne d'infortune, éternelle lueur au monde qui s'endort dans l'angoisse et la peur. Mon ultime renfort, ne me laisse pas seul. Ma vieille amie la lune.
Prière païenne, extrait de l'album du même nom par Kadijo, Kadijo au chant et à l'harmonica. Baptiste Castel, il s'occupe des guitares acoustiques et électriques dans l'album, clavier, batterie, percussion, bottleneck. Et Laurent Vanet s'occupe de la contrebasse. Voilà, il y a d'autres intervenants sur d'autres titres. On les découvrira au fil de toutes ces émissions du mois de mars parce que je vous le rappelle, Kadijo, Prière païenne, c'est le disque du mois pour Sweet Home Chicago. On continue avec Joe Harpo. Là, on passe du sud-ouest au sud-est de la France avec Last Tides of Magnolias. Joe Harpo sera prochainement l'invité de Sweet Home Chicago. Voici le titre Believe. Joe Harpo avec cette voix incroyable. Joe Harpo qu'on va retrouver bien sûr dans les prochains Sweet Home Chicago. Et là, on va revenir le temps d'un titre du blues en français ou de la chanson bluesy. C'est Mr. Matt, cet extrait de son dernier album Route Noire qui était sorti à l'automne dernier. Voici quelque chose de Dylan, Mr. Matt.
S'écouler le temps raconte si bien la vie d'avant. Elle aime danser sous la pluie. Elle sait des choses que je ne sais pas, à l'élégance d'autrefois. Elle a le regard si joli. Elle a quelque chose de Dylan, un petit truc de Zimmerman. Petit rien qui vous terrasse, planqué dedans son corps de femme, un cœur brillant comme une lame. Elle a quelque chose de Dylan. Elle est cynique l'instant d'après, elle voit le monde se dérober comme un simple château de sable. Fiche si elle est aimée, adulée ou même détestée. Dit que la vie n'est rien qu'une fable. Elle a quelque chose de Dylan, un petit truc de Zimmerman. Ce petit rien qui vous terrasse, planqué dedans son corps de femme, un cœur brillant comme une lame. Elle a quelque chose de Dylan. Elle voit la vie comme elle l'entend. Elle se fiche un peu des gens. Mais son regard se pose sur vous. Elle a quelque chose d'ailleurs. Un peu de pire et de meilleur. Tout ce qu'on a au fond de nous. Côté sombre de la route, poursuit son chemin, elle écoute tout ce qui se cache dans le vent. Elle est si belle, mais elle s'en fout. La beauté ne veut rien dire du tout. La beauté n'est qu'une histoire de temps. Elle a quelque chose de Dylan, un petit truc de Zimmerman. Ce petit rien qui vous terrasse, planqué dedans son corps de femme, un cœur brillant comme une lame. Elle a quelque chose de Dylan. Elle a quelque chose de Dylan, un petit truc de Zimmerman. Ce petit rien qui vous terrasse, planqué dedans son corps de femme, un cœur brillant comme une lame, où je voudrais me faire une place.
Mr. Matt, extrait de Route Noire, quelque chose de Dylan. L'invité de cette première heure du 1269e Sweet Home Chicago, lui aussi il a quelque chose de Dylan, on va s'en rendre compte tout à l'heure. On écoutera du Bob Dylan, on va revenir sur du français également avec Bernard Lavilliers, Léo Ferré, Étienne Dao, Alain Bachung. Et puis on va revenir sur également une partie de la discographie de Laurent Picot, notre invité, qui nous parlera également de Bruce Springsteen. Je vous propose tout ce voyage dans le 57e numéro de My Rockers avec Laurent Picot, avec la participation amicale de Michel Caro. By Rockers, nouveau numéro, numéro 57 aujourd'hui, avec un nouvel invité, comme à chaque fois, vous l'avez bien compris, c'est Laurent Picot. Salut Laurent, tu vas bien ?
Salut, salut à tout le monde.
Laurent Picot, guitariste, chanteur, compositeur, auteur, interprète de la région Normandie. Il n'y a pas souvent des Normands dans l'émission, mais là, ça y est, on y retourne. Ça fait un bon moment, j'ai l'impression, hein, que tu roules ta bosse.
Ça fait quelques années, effectivement.
Musicalement parlant.
Oui, tout à fait, ça fait un bon moment que je roule ma bosse. Après, comme beaucoup, dans différents groupes, et puis maintenant, plutôt dans une carrière... enfin solo, non, je suis pas seul, évidemment, je suis pas seul, mais voilà, j'ai un petit peu laissé tomber les groupes pour différentes raisons, voilà.
Et puis, tu n'es pas tout seul dans le studio non plus, parce que tu es avec Michel Caro, qui joue de la basse. Salut Michel.
Salut Marc.
Très content de te revoir ici, parce qu'il paraît que tu as été animateur pendant 2 ans, c'est ça ?
Oh oui, 2 ans, ouais.
Dans les années 80 ?
Ouais, peut-être 87.
Tu te rappelles, tu te souviens des locaux, ça te rappelle des souvenirs ici ou...
Ça a changé quand même.
Ouais. Mm. Bon, c'est toujours les mêmes murs.
Ouais, mais c'est plus là du tout, c'est plus la même disposition en fait.
Voilà, et ben ça s'est modernisé. On est en 2025 maintenant, ouais. Et tu as laissé tomber la radio complètement, Michel.
Ben ouais. Mais c'est tentant, hein.
C'est tentant. Écoute, on va voir. À la fin de cette séquence, je te reposerai la question. Je reviens à toi, Laurent. Laurent, ça fait un bon moment aussi que tu t'intéresses à la musique, peut-être depuis ton enfance. Comment est-ce que ça a commencé et avec quels artistes ? Quels sont tes artistes de chevet, on va dire ?
Alors, le tout début, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un truc en tête depuis mon adolescence, c'est d'écrire des chansons surtout. Voilà. Alors pour écrire des chansons, il fallait que j'apprenne à jouer d'un instrument et il s'est trouvé que c'est, bon, la guitare.
Voilà. La guitare, c'est parce que c'est plus pratique ou parce que c'est plus universel ?
Oui, puis il y avait une guitare chez moi, mon père avait une guitare comme ça pendue au mur, il jouait de temps en temps, voilà, pour se distraire. Et puis la guitare, effectivement, c'est un instrument qu'on balade un peu partout. Et puis il y a ce côté un peu roots, quoi. La route, on prend sa guitare et on part.
Ton père jouait de la guitare, c'était plutôt dans quel style ? Il faisait écouter des choses ?
Non, pas du tout. Mon père, il jouait sur une ou deux cordes, comme ça. Il s'amusait. Ouais. C'était, mais bon, il aimait les vieux rock, mais c'était simplement mon père, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a fait des métiers difficiles. C'était, voilà, pour se détendre un peu le soir. Et puis, simplement, sans aucune obligation de quoi que ce soit.
Et alors, tu as plutôt écouté des artistes par la radio au début, je crois. Hein.
Oui, j'ai découvert les artistes par la radio, effectivement. Moi, j'ai toujours été partagé entre les artistes anglo-saxons et français.
Ouais.
Voilà. Mais celui avec lequel j'ai appris à jouer de la guitare, c'est Bob Dylan, forcément. Parce que j'ai rencontré un prof, quand j'étais au collège, un prof qui, lui, jouait, était fan de Dylan, aussi bien de Dylan que de Léo Ferré, et j'ai amené ma guitare un jour, et puis il m'a aidé, il m'a donné quelques accords, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces tutos qu'on peut trouver maintenant.
On va rappeler aux jeunes qu'il n'y avait pas Internet du tout.
Il n'y avait pas Internet du tout, donc voilà, il écrivait ses chansons, il aimait beaucoup Dylan, il aimait beaucoup certains chanteurs français, et bon, moi j'étais assez timide, hein, je commençais à gratouiller, écrire quelques trucs, il me disait, mais voilà, prends ce chemin, vas-y. Il m'a poussé, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Il m'a aidé à vaincre ma timidité naturelle et je lui dois beaucoup, beaucoup.
Bob Dylan, plutôt acoustique, folk au tout début ou ensuite la période électrique après les années 65-66, on va dire
Non, d'abord la période folk,
d'accord.
Effectivement.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Cette première période importante et avec des choses simples, quelques accords, voilà, je l'accompagnais, j'essayais d'apprendre tout ça. Il m'a donné plein de petits conseils qui me restent encore maintenant.
Tu avais quel âge à ce moment-là, Laurent ?
Alors, j'étais ado, pré-ado, je sais pas.
13-14 ?
Voilà, exactement, oui. C'était ça. Mais j'étais pourtant à ce moment-là plutôt dans le football, parce que ma famille c'était le football, hein, une famille italienne. J'ai un oncle qui était professionnel à cette époque-là, donc c'était, c'était vraiment le football avant tout. Et puis moi j'ai dit, terminer le football, voilà, la musique, je sais pas pourquoi, encore une fois c'est venu comme ça, quoi.
Quels sont les autres artistes qui ont forgé ton oreille et puis peut-être côté français aussi, il y a quelques artistes que tu
peux
citer.
Oui, des artistes français. Alors mon premier gros concert que j'ai pu voir à cette époque-là, c'était Bernard Lavilliers.
N'appartient jamais à personne, n'appartient jamais, n'appartient jamais, n'appartient jamais à personne, n'appartient jamais, n'appartient.
Bernard Lavilliers, quoi, qui est arrivé sur Et grâce toujours à ce prof qui m'a donné une cassette un jour, il m'a dit écoute ça, c'est un français, il dit des choses dans ses chansons. Et j'ai été le voir en concert,
C'était à Caen ?
C'était à Alençon.
À Alençon,
on a pris le train parce qu'on n'avait pas de voiture, hein, on était beaucoup trop jeunes. Et là j'ai découvert un artiste français qui il me semblait me parler. Les choses qu'il chantait m'ont touché vraiment par rapport à ma vie, par rapport à mon histoire familiale. Il était un peu particulier, effectivement. C'était de la poésie avec des biceps. Hein, voilà.
C'est vrai.
Il se la racontait pas mal aussi, quoi. Mais quand on est ado, j'étais fasciné par ce type sur scène et je me suis dit, mais c'est ça qui m'intéresse.
Tout comme Bob Dylan que tu nous as cité tout à l'heure, Bernard Lavie est toujours sur scène. Mmh. C'est un garçon qui frise des 80 ballets maintenant et qui est toujours actif. Je pensais que tu allais aussi me parler de Hugo Frey, mais pas particulièrement.
Non. À l'époque, Hugo Frey, je connaissais les chansons qu'on chante en colonie de vacances, quoi, si tu veux. Ouais. Mais non, c'est surtout ça. Et puis aussi Léo Ferré que j'écoutais un peu. Alors j'étais un peu jeune. Bon, c'était pas forcément facile à écouter comme ça, quoi. Mais ce prof m'a dit, écoute ça, tu vas voir aussi. Il y a du texte. Alors bon, oui, j'ai pas tout compris au début. Hein. Forcément, mais ça m'a fasciné.
Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes.
Puis également des artistes de la scène rennaise, je crois.
Oui. Alors ça, c'est venu un petit peu plus tard, dans les années 80, effectivement. Toute cette vague début 80, qu'on pouvait dire New Wave, avec notamment, Marquis de Sade, Étienne Dao, que j'aime beaucoup, parce que je trouve que, Étienne Dao, quand on entend ça, on a envie de taper du pied, et puis, pour d'autres raisons, c'est des textes simples, mais on a envie de faire la fête, on a envie de... Voilà, ça m'a... Puis c'était français, quoi, je me disais, il y a quelque chose à faire.
Ni papier, ni sous la lune, sans foi, ni toi, ni fortune, je passe mon temps à faire n'importe quoi. Sur les pistes, noires de préférence, quand le démon de la danse me prend le corps, je fais n'importe quoi, tout va bien.
Tu évoquais tout à l'heure, Laurent, le fait d'avoir joué dans plusieurs groupes et puis également avec, j'ai l'impression, pas mal de styles différents. Il y a un artiste qui n'était pas indifférent et à qui tu rends hommage, c'est Alain Bachung.
Oui, alors Alain Bachung, c'est pareil, c'est venu début 80, effectivement, notamment parce qu'il racontait. Alain Bachung, il a inventé un langage. Hein. Je me rappelle à l'époque de Gabi, puisque c'est quand même Gabi qui l'a beaucoup aidé, qui l'a lancé. Je crois que c'est l'événement du jeudi qui avait dit « Parlez-vous le Bachung ?» Effectivement, cette écriture m'a fasciné, quoi. Son comportement aussi, cette façon d'être et puis sa liberté de faire ça, voilà, c'est ce que j'ai gardé de Bachung, surtout c'est la liberté de création et puis cette liberté d'être ce qu'on a envie d'être, d'être soi-même.
Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Je dis bonjour, faut bien que je me mouille.
Et puis l'écriture de Boris Berman aussi, qui est quelque chose d'assez fouillé, en même temps très poétique et très touchant, je crois.
Hein. Oui, et puis il y a plusieurs niveaux de compréhension. J'ai eu la chance de rencontrer Jean Faux, qui a travaillé beaucoup, notamment sur l'album Fantaisie Militaire, qui m'expliquait comment Alain Bachung travaillait. Il lui apportait trois textes, il piochait des phrases dans chaque texte.
Qui donne le côté surréaliste de cette chanson.
Il brouillait un peu les pistes, on a l'impression qu'il était sur certains sujets, et en fait, ça c'est intéressant. C'est pas. Alors moi ça me fascine, mais c'était pas vraiment l'écriture. Moi, c'est pas l'écriture que j'ai envie de faire. Je préfère faire des choses plus concrètes que ça.
La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho.
Quand tu composes, Laurent Picot, quand tu écris pour toi-même, tu privilégies quel thème ? Quelles sont les choses qui t'inspirent ?
Alors, je veux évoluer dans le temps. Moi, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est d'être au plus proche de ce que je vois, des histoires que je peux entendre autour de moi, essayer d'être dans le plus concret possible, quoi. Ce qui est pas facile parce que il faut savoir faire simple, pas faire simpliste, mais j'écoute un maximum de gens, j'écoute tout ce qu'il y a autour de moi et j'essaie de le restituer simplement parce qu'il faut être compris assez vite. Et ça, c'est pas facile.
Alors le fait de chanter en français, c'est quand même la garantie de pouvoir être compris de son public quand tu joues en France, bien sûr. Est-ce que, alors tu parles d'écouter les gens et puis de t'inspirer de ce qui t'entoure, mais il y a peut-être un côté autobiographique dans certaines de tes chansons là.
Ah, complètement, oui. Après, moi, je mets mon sentiment de ce que je ressens par rapport. Et puis, j'ai de plus en plus de chansons sur l'histoire de ma famille. Voilà. J'ai une chanson notamment qui parle de l'histoire de ma grand-mère, qui est italienne, qui a fui le fascisme, qui est arrivée en France, qui s'est installée dans la cité ouvrière en face de la SMN. Toute ma famille a travaillé à la SMN. Ça m'intéresse de plus en plus de raconter ça. Dans le dernier album qui va apparaître très prochainement, il y a l'histoire de mon oncle qui est devenu footballeur professionnel, qui aurait dû normalement travailler en usine, travailler à la SMN dans les hauts fourneaux. Son destin était tracé et on est venu le chercher. Il a eu une vie incroyable à cause de ça, quoi. Ça m'intéresse.
Ouais, il a joué dans quelle équipe? Tu évoquais tout à l'heure Lavilliers, le Stéphanois, ouais. D'où on est plus
oui, voilà.
Côté camp. Enfin voilà.
Il a joué à Rouen, il a joué à Nancy, mais c'est Rouen qui est venu le chercher chez lui. Et, voilà, ma grand-mère l'a laissé partir et autrement il allait bosser à l'usine. Et là il a eu une autre vie, quoi. Je trouve que c'est intéressant à restituer, quoi.
C'est une autre carrière qui aurait pu tout aussi bien t'arriver, Laurent, le fait de devenir sportif professionnel ou de travailler à la SMN.
Oui,
comme
oui,
métallo.
Tout à fait. Oui, oui, ouais. Oui, parce que moi je viens d'une famille d'ouvriers comme ça, donc effectivement j'aurais pu. Et mon destin était. Mais bon, j'ai fait en sorte de. Moi, je voulais pas, adolescent, je voulais pas aller bosser en usine, quoi, forcément, quoi. Comme beaucoup de ma génération, on a tout fait pour éviter d'avoir ces métiers difficiles que j'admire, mais que j'aurais pas voulu faire, évidemment.
Musicalement, et puis au niveau de la composition et du travail, je me tourne également vers Michel Caro, qui était à côté de toi, donc qui n'est pas ton bassiste, hein, qui est un peu ton alter ego, c'est
oui,
ça, en fait.
Oui,
alors...
oui, c'est plus que mon bassiste, évidemment.
D'ailleurs, le groupe s'appelait Laurent Picot et les alter ego. Maintenant, c'est Laurent Picot.
Oui, pour l'instant, on reste tous les deux. On a aussi un batteur qui s'appelle Guinux, mais qui est un peu fantomatique. Hein. Personne ne l'a jamais vu, mais il est là, quoi.
D'accord.
Voilà.
D'accord,
hein, ça reste.
C'est pour ça qu'il y a un troisième micro devant lequel il n'y a personne.
Voilà, et c'est ça. On lui a demandé de venir, mais il vient jamais aux interviews. Il est rarement là au concert, de temps en temps. Enfin, on nous pose beaucoup de questions sur cet individu.
À la limite, vous savez même pas où il habite, quoi.
Non. On sait qu'il est à l'étranger, en tout cas. Voilà.
Michel, ça fait combien de temps que tu connais Laurent Picot?
Ouh, très 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 longtemps.
10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Oh, bah, ouais, je dirais 40.
40 quand même. Ah
oui. Bah oui. Parce que, en fait, Laurent était ami avec Pascal, mon frère aîné. Et donc, nous, petits, il nous voyait, quoi. Et effectivement, quand j'ai commencé la musique, c'était évident que j'allais insérer le groupe à l'époque où Laurent et mon frère jouaient ensemble.
Donc, vous vous êtes connus grâce à la musique, essentiellement.
Oui, tout à fait.
Vous avez partagé les mêmes bancs de lycée ou pas forcément?
Ah non, pas du tout, non. Non, on a un décalage...
Décalage horaire, un petit peu.
Décalage.
Quelques années d'écart.
Voilà. Que, oui, donc quand je suis arrivé, Laurent était déjà actif, je veux dire, au niveau musical. Mmh. Et moi, j'ai travaillé à ce moment-là pour insérer le groupe à l'époque.
Et donc, en tant que bassiste, est-ce que tu participes également aux arrangements, à la composition? Comment ça se passe?
Alors, là, depuis pas très 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 longtemps, plus qu'avant.
Ouais.
Plus qu'avant, ouais. C'est-à-dire que s'il y a des choses où je trouve que, bah tiens, on devrait plutôt faire ça, donne l'idée. Peut-être que je n'aurais pas forcément dit avant, mais maintenant, oui, plus. Avec Laurent, on a un fonctionnement qui commence à être bien rodé.
Le répertoire de Laurent Picot, auquel tu participes, Michel, c'est de la chanson et du rock en français, ou de la chanson rock ou pop rock? Comment est-ce que... Je vous pose la question à l'un et à l'autre.
Moi, je dirais rock, folk,
ouais.
Plus.
Moi, je dirais oui, oui, il y a de ça. Je dirais chanson. Je tiens au mot chanson parce que c'est chanté en français. En fait, c'est ce partage entre les influences françaises et anglo-saxonnes. Donc, je trouve que chanson rock, ça définit assez bien ce qu'on fait. S'il faut le définir, mais oui, je trouve que c'est pas vraiment du rock traditionnel au sens pur. Et le côté chanson, c'est par le texte, parce que j'accorde de l'importance au texte. Donc, on met un petit peu la voix plus en avant qu'un groupe de rock traditionnel, quoi.
Y compris dans le mixage. On s'en rendra compte tout à l'heure avec les extraits du prochain album qui sort, je crois, le 1er avril.
C'est 1er avril, gag, hein. Oui, c'est pas un gag. Hein.
C'est pas un gag.
Non.
Et donc, cette chanson française qui... J'ai eu l'occasion de recueillir d'autres témoignages d'autres artistes français qui chantent en français et qui vont jouer aux États-Unis ou en Angleterre, où c'est très très bien reçu par le public. C'est une expérience qui vous est arrivée?
Moi, je sais que j'ai été en 2013 au Japon. J'ai fait une tournée au Japon et en Russie. Et là, effectivement, là, je chantais exclusivement en français. Ils adorent la langue langue française, même s'ils ne comprenaient pas, ce qu'ils aiment, c'est la douceur. Moi, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous aimez? C'est la douceur de la langue, et puis toute l'imagerie qu'il y a derrière, française, avec Paris, voilà, tout ce côté, très, la culture française, libre, enfin, tout un tas de choses qui vont avec, donc ils étaient assez attentifs.
J'ai traversé des étendues, de sable brûlant à perte de vue, sillonné des villes noircies par les coulées, ses débris. Je me suis perdu dans des quartiers aux rues étroites sans danger, croisé des fantômes bien vivants testant leur force face au vent. Vagabond d'une vie sans trou d'air, emporté par les ailes de l'enfer, dans un ciel bleu sans repère, un œil sur l'hôtesse aux yeux clairs.
Il y a tout plein d'artistes comme ça qui se sont exportés, qui même ont eu la limite plus de succès à l'étranger. Tu cites la Russie, le Japon. Il y a des gens, Gilbert Bécaud et Mireille Mathieu qui m'arrivent à l'esprit.
Tout à fait.
Patricia Cass. Enfin, il y a un tas d'artistes français comme ça qui sont même plus connus là-bas. Les États-Unis, c'est quelque chose qui t'a et qui vous a branché à un moment donné d'aller vous exporter là-bas pour faire découvrir votre répertoire.
Ah, moi j'aimerais bien, effectivement, mais après c'est pas forcément évident. Ça peut être un projet. Ça peut être un projet. Ouais. Moi, il y a des choses que j'aime beaucoup là-bas. Évidemment, il y a cette musique américaine que j'aime. Aussi comme la musique française, donc ça serait une expérience, ouais, effectivement, mais ça peut être dans les projets.
Laurent Picot, il y a un morceau en particulier du prochain album que tu voudrais faire entendre à nos auditeurs, peut-être avant sa sortie, ça serait une excuse.
Bah oui, il y a un morceau qui est assez 666 qui s'appelle Le jour du néant, où avec Michel, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait émerger ce qu'on aime des années 80, la new wave des années 80, un petit peu.
Oui. Puis en plus, sur ce morceau-là, on a fait, enfin, volontairement, on a fait un mixage quand même, on l'a poussé au maximum. En fait.
C'est-à-dire
que par exemple, moi au niveau de la basse, j'ai vraiment mis un son sale.
Ouais, volontaire.
Et volontairement et en avant. C'est-à-dire que la basse sur ce morceau-là, elle est vraiment en avant. Elle met le ton en fait.
Donc c'est un morceau tout récent mais qui va nous faire replonger il y a 40 ans, c'est ça l'idée.
Oui, exactement.
Ouais. Au niveau sonore, oui, ça va être assez. Ouais.
Alors c'est un morceau qui est complètement à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure au niveau du texte. C'est-à-dire que c'est un texte un peu, j'irais, un peu grandiloquent, un peu, peut-être un peu poétique, enfin, un peu sur la religion. Enfin, c'est pas du tout le genre de texte très très concret, comme je disais tout à l'heure. Effectivement,
ça pourrait être du Dylan alors.
Ça pourrait, ouais. Là, tu me flattes la marque, mais bon, oui, c'est un truc un peu
dans l'esprit.
Oui, il y a peut-être un petit peu de Bachung aussi, c'est-à-dire un peu pas forcément. Chacun peut prendre ce qu'il a envie de prendre. Voilà, en fait.
On écoute ça.
Max, le grand enfant des prières, se souvient de leur regard fixe devant l'étendue de tous les risques. Ils ont arrêté de se demander si les erreurs de création l'ont emporté sur cette idée que les hommes ont perdu la raison. Les dieux surveillaient la terre, insensibles à toutes les prières, désespérés d'être l'alibi de destruction, de barbarie, hantés par un passé diabolique, aux mains gantées fanatiques. Cette vision de la fin des temps, le retour du jour du néant. Tant de réponses restées dans le souffle du vent. furent pris d'un coup de sang, revanchards et arrogants, remplaçant les dieux au gré du temps. Ils façonnèrent leur destruction, le tout dans une grande confusion. Plus personne n'était à sa place, le vent du doute remplit l'espace. Quand les dieux se perdaient sur la terre, Max de Grand brûla ses prières, hanté par le jour fatidique, le grand désastre en un seul clic. De la terre à jamais aride, au ciel muet, couleur du vide, cette vision de la fin des temps, le retour du jour du néant.
Il y a un artiste américain en tout cas qui t'a beaucoup inspiré lui aussi, dont on va parler Laurent, c'est le boss Bruce Springsteen, quelqu'un qui avait choisi également notre ami Jean-Christophe Panico pour son My Rockers à lui. Vous n'avez pas choisi le même disque et en même temps c'est pas tout à fait anormal parce que la petite différence d'âge explique que vous n'avez pas découvert Bruce Springsteen au même,
exactement,
au même moment.
Oui, tout à fait, moi j'ai découvert Bruce Springsteen un peu plus tôt que Jean-Christophe, fin des années 70 effectivement.
Et on est plutôt sur ce genre de répertoire.
Voilà.
Alors ça, c'est la version live de 2002, mais c'est un disque qui est sorti à quel moment, Laurent ?
En 1978, Darkness and the Edge of Town. Ça, c'est un album que j'adore et que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'était à l'époque et ça l'est toujours connecté à ma vie. C'est-à-dire que dans cet album, il parle, notamment sur ce morceau, The Promised Land, c'est l'histoire d'un type qui bosse dans le garage de son père et qui, la nuit, roule et cherche, court après les mirages. Et moi, je me rappelle qu'en 78-79, c'est assez marrant, mon père tenait un garage et au lieu d'aller en cours, je bossais avec lui, quoi.
T'as fait une analogie
tout de suite. Oui, tout à fait. Je me suis dit, quand j'ai commencé à regarder, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les traductions, fallait aller chercher les traductions des textes. J'ai vu ce que racontait ce mec qui était très très loin de ma vie. Je me suis dit, mais je me suis trouvé connecté avec lui tout de suite, quoi.
Et tu faisais partie des gens qui écoutaient en cours d'anglais et puis qui participaient, justement.
Oui, voilà. J'ai plus appris en traduisant que pendant les cours, hein, évidemment.
Amis collégiens, amis lycéens, bossez l'anglais. Vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Hein. Michel, t'es d'accord ?
Oui, tout à fait. Oui.
Ah, c'est important quand même, pour comprendre. Ah, pas seulement comprendre tous les textes, tu disais tout à l'heure, jouant à l'étranger, n'étant pas compris, c'est un peu le chatoiement de la langue qui plaisait à ce public. Et là, moi j'ai l'impression aussi que la plupart des Français, on est d'accord, ils ne comprennent pas les paroles,
non.
Mais c'est la musique d'abord. Toi, ça a été les deux.
Oui, c'est ça, parce que comme moi, j'ai toujours le texte a toujours été important pour moi. Donc quand j'écoutais quelque chose, c'était des anglo-saxons, notamment Springsteen. Bon, la première fois que j'ai entendu Springsteen, c'était sur Europe 1, tu vois, sur une radio, mes parents écoutaient Europe 1. Et c'était, je me rappelle plus de l'animatrice, c'était une femme qui faisait une émission de rock et j'ai entendu Born to Run.
Ah oui.
Et voilà.
Sprung from cages on Highway 9, drove with
ça m'a fasciné. La musique, comme tu dis, effectivement, c'est pas le texte, parce que je comprenais pas. Et puis après, il y a eu des témoignages sur ses prestations scéniques. Il y a eu Antoine Decaune qui passait Rosalita en boucle. Voilà. Spread out now, Rosie, doctor, come cut loose her mama's rain. You know, playing blind man's love is a little baby's game. Sa prestation scénique, c'est une chose, mais il y avait le fond, et effectivement, c'est ce qui était important pour moi, c'était le fond aussi, quoi.
C'est un artiste, Bruce Springsteen, que tu as vu sur scène, hein, Laurent?
Très très souvent, ouais. Oui, très très souvent.
Combien de fois?
Je sais pas, depuis les années 80, chaque fois qu'il vient en France...
Tu comptes plus, quoi.
Je compte plus, et j'ai été le voir aussi à l'étranger. Il y a beaucoup de choses dans Springsteen, il y a beaucoup de choses, ce que disait Jean-Christophe, effectivement, il y a un rapport au cinéma aussi qui est important, et puis il y a des choses qu'il a dit qui me plaisent. Il dit, moi je suis là pour témoigner de la réalité du rêve américain, pas du rêve américain mais de la réalité, et je trouve qu'il témoigne. Si on a envie de comprendre certaines choses sur l'Amérique, il faut regarder ses textes.
Il y a un certain nombre de choses qui se passent lors d'un concert de Bruce Springsteen qui dure généralement au moins 2h30 maintenant, même encore maintenant, alors qu'il a passé la barre des 75 ans. Il y a une espèce d'osmose avec son public, c'est quelque chose de particulier qu'on reconnaît moins chez d'autres artistes. Il y a un amour réciproque qui est palpable. Pour ses concerts.
Ah, complètement, oui. On sent qu'il y a vraiment. On s'embarque avec lui. Hein. Et puis ce que j'aime chez lui, c'est qu'il arrive à. Bon, il y a des choses assez graves, il y a des textes assez noirs, mais il y a aussi ce côté festif. Il mélange ces choses. Un concert, ça doit être aussi un moment de joie, et il arrive à concilier tout ça, quoi, à concilier un maximum de choses. Et ça, je trouve ça intéressant.
Tout récemment, suite à la venue au pouvoir de Donald Trump, on va dire les noms, hein, il a déclaré en tout cas, je ne sais pas s'il va vraiment le faire, vouloir, tout comme Robert De Niro, s'installer au Canada. Qu'est-ce que tu penses d'un truc pareil?
Oui, alors...
Tu y crois?
Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense qu'il est tellement attaché à son pays, j'ai du mal à le croire, mais...
Ne serait-ce que pour 4 ans, quoi.
Oui, voilà, peut-être, oui, mais j'ai du mal à le voir quitter les États-Unis. Je sais pas pourquoi. En plus, je pense que s'il le dit, en général, quand il dit certaines choses, il le fait... Oui, il va jusqu'au bout,
ouais,
mais je doute.
D'accord.
Je doute.
S'il y avait un album que tu devais, Laurent Picot, conseiller aux auditeurs, un seul album, on va dire un Greatest Hits, ça c'est trop facile,
ouais,
mais
non.
Vraiment un album original, ce serait l'album dans lequel il y a Promised Land
ou... Oui, complètement, ouais. Oui. C'est un album assez dur, assez roots, quoi, mais je trouve qu'il y a vraiment tout ce que j'aime chez lui, profondément. Alors bon, il y en a d'autres, hein, évidemment, mais oui. On peut commencer par cet album-là.
Donc l'album s'appelle Darkness on the Edge of Town, et dedans on retrouve juste deux mots si tu veux à l'évocation de chaque titre, des choses qui te font penser, des adjectifs, simplement un mot si tu veux. Badlands qui démarre.
C'est un hymne.
Adam Raise the Can.
Ah, ça c'est son rapport à la religion.
Something in the Night.
Ah, ça c'est, voilà, ça me rappelle, moi, les virées qu'on peut faire la nuit. Voilà, il y a quelque chose dans la nuit qui se passe, quoi. Ouais.
Candy's Room,
ça c'est le jardin caché que peuvent avoir certains individus, certaines femmes, certains, voilà.
Un titre un peu plus connu peut-être des gens qui survolent Bruce Springsteen, ça serait Racing the Street.
Ah ouais, Racing. Mmh. Ah ouais, ah ça, c'est un morceau que j'adore profondément, ça. Quand on aime partir en virée, qu'on a un côté un peu gitan, voilà.
Ouais.
Ah, on part la nuit. Je me rappelle avec mes amis, on partait la nuit comme ça, et puis on écoutait ce titre, Racing the Street. Là, c'est... I got a 69 Chevy with a 396 Fuley heads and a Hurst on the floor. She's waiting tonight down in the parking lot outside the 7-Eleven store. Me and my partner, Sonny, built her straight out of scratch, and he rides with me from town to town. We only run for the money, got no strings attached. We shut 'em up and then we shut 'em down.
Factory.
Ah, le travail, ouais. Le monde ouvrier, le travail.
On revient à la semaine. Streets of Fire.
Ah ça, oui. Ah ça, c'est la solitude dans une, dans, enfin, ce thème un peu cliché, mais la solitude dans la ville, quoi, forcément.
Prove It All Night.
Ah ça, il y a un petit peu d'amour dans cette chanson-là. Il
ouais.
y en a très peu dans ce disque, mais il y a un peu d'amour quand même là.
Darkness of the End of Town, donc le titre.
Le titre, ouais, ça c'est pareil, c'est un hymne.
Et toi, tu as choisi de nous faire écouter en entier The Promised Land, alors un morceau particulier, un morceau qui aussi, je disais tout à l'heure, cette osmose qui se passe avec le public, c'est le genre de truc qui réunit tout le monde, quoi.
Ah, complètement.
C'est impossible de faire autre chose que d'écouter, de partager, de raisonner avec l'artiste.
Oui, on s'embarque avec lui, c'est aussi un grand classique, mais on sent que le public part avec lui, on est tous dans la voiture avec lui, quoi.
On va terminer donc avec ce titre The Promised Land, extrait de ce fameux album de Bruce Springsteen, Darkness on the Edge of Town, que tu nous as apporté, Laurent. Merci Michel Caron.
Merci Marc.
Et merci Laurent Picot.
Merci beaucoup Marc.
Et à très bientôt.
À bientôt.
C'était le 57e My Rockers avec Laurent Picot et la participation amicale de Michel Caro. On a pu entendre Bob Dylan, Like a Rolling Stone et Blowing in the Wind. Bernard Lavilliers, N'appartient jamais. Léo Ferré, Les Anarchistes. Étienne Dao, Tombé pour la France. Alain Bachung, Gabi et La Nuit Je Mens. Vagabond d'une vie, extrait de Vagabond d'une vie, le titre album de Laurent Picot, l'album qui va sortir le 1er avril prochain. Le Jour du Néant, un morceau qu'on a pu entendre en entier. Et puis ensuite, on est allé se promener du côté du New Jersey avec le répertoire magnifique de Bruce Springsteen, The Promised Land, avec la version live à Barcelone en 2002, Born to Run en 75, Rosalita en 1973, Born in the USA en 84, Racing in the Street en 78 sur l'album Darkness on the Edge of Town, duquel on a extrait également le titre album, et ce morceau qu'on a pu entendre en entier, The Promised Land, le choix de Laurent Picot. Le mois prochain, le 58e My Rockers recueillera les goûts musicaux d'un nouvel invité, Christian Biral. On poursuit avec 50 Years After. C'est Big Mama Thornton, nous sommes en 1975. Je vous propose de revenir sur cet album qu'elle avait sorti à l'époque qui s'appelait Jail. C'est un live, bien sûr.
Thank you. I said, brother, how much time do you have? Brother, how much time do you have? Say, I got 5 long years sitting there, baby, you're never wasting time. But the waste is our time.
Nous étions en live en 1975, c'était la séquence 50 Years After de ce Sweet Home Chicago, avec Big Mama Thornton au chant pour ce titre Jail. Bruce Stevenson était à la basse, Todd Nelson à la batterie, John Kilgour était l'ingénieur du son, et puis deux guitaristes figuraient sur cet enregistrement, Bill Houston et Steve Washman. Le pianiste G.D. Nichols figurait également à l'enregistrement. On termine cette première heure du 1269e Sweet Home Chicago avec Vendre son âme au diable, un nouvel extrait de Prière païenne signé Khalid Jones.
Vendre son âme au diable pour une vie plus confortable. Vendre son âme au diable pour avoir un sort plus enviable. Vendre son âme au diable pour la maison, la piscine, le câble et le portable. Vendre son âme au diable pour avoir l'air plus respectable. Fatigué de rester digne, fatigué d'avoir la foi, fatigué d'avoir la guigne et de tout faire pour rester droit. Vendre son âme au diable, un seul souci, être rentable. Vendre son âme au diable pour un bonheur insaisissable. Mon carré de neige au sport d'hiver, ma carrière, ma carte bancaire, du sport, du sexe et de la guerre, juste un petit chèque pour l'abbé Pierre. Fatigué de rester digne, fatigué d'avoir la foi, fatigué d'avoir la guigne et de tout faire pour rester droit. Son âme au diable pour n'être plus un misérable. Je me souviens assez souvent en voyant grandir mes enfants, et je gratte et je gratte et je gratte ce ticket. Oh, de télé, c'est trop misérable. Mon âme, il en voudra jamais, putain de diable. Et c'est drôlement mieux comme ça. J'essaierai de rester digne, j'essaierai d'avoir la foi. Et même si j'ai toujours la guigne, je m'accrocherai pour rester droit.
Vendre son âme au diable, Khalid Joe, extrait de Prière païenne. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième heure avec l'invité Jean-Luc Caturla.